d'heure, mais d'abord, puisqu'il est 8h01, le journal de Simon Rubin.
On s'attendait à ce que ce soit plus qui soit annoncé. C'est peut-être pour pas affoler les gens. Après, nos proches, on ne sait pas quand on les reverra en fait.
Le temps suspendu encore. La France partie pour 2 semaines de confinement supplémentaire. On va voir que la vie s'est peu à peu réorganisée. Un quotidien reclus auquel les Français se font bon gré mal gré.
Se confiner pour empêcher le virus de circuler trop vite. Et on va voir que c'est capital. Car en Île-de-France, ça y est, les hôpitaux arrivent au début du point de rupture.
Pendant ce temps-là, l'Union européenne se déchire. La crise du coronavirus réveille de vieilles querelles autour de la dette entre les États du Sud et ceux du Nord. Et puis, du sourire dans ce journal, on ira dans une petite maison de retraite qui a décidé de se lancer dans la superproduction de films, un EHPAD où les résidents se mettent en scène pour filmer leur quotidien avec humour.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La France confinée pour 2 semaines de plus, au moins jusqu'au 15 avril. Les Français devront rester chez eux et respecter les consignes strictes pour sortir. Une nouvelle accueillie avec philosophie. Hélène Terzian.
C'est la moindre des choses qu'on puisse faire à notre niveau pour combattre la maladie et aider les soignants.
Rester chez elle avec son mari et ses filles 15 jours de plus n'effraie pas Ella. Comme elle, beaucoup de Français s'étaient déjà fait à l'idée que le confinement durerait plus longtemps.
À vrai dire, on s'attendait à ce que ce soit plus qui soit annoncé. C'est peut-être pour pas affoler les gens.
Et... Arthur est en quarantaine à Paris avec sa petite amie.
Je dirais qu'on s'est adapté, on a pris notre rythme. Ma copine fait du télétravail moi je travaille également. Je suis comédien, c'est pas forcément très facile, mais... On essaye de s'organiser à distance. Après, nos proches, on ne sait pas quand on les reverra, en fait.
Malgré l'inquiétude pour la famille, le couple a pris ses marques. Moins évident lorsque les enfants entrent en jeu. Marion doit jongler entre son fils de 7 ans et sa fille de 2 ans.
Il faut jouer à la maîtresse, il faut trouver des activités sans cesse, il faut faire à manger tout le temps. Le midi, le goûter, le soir. Les enfants, ils sont quand même pas mal perturbés par la situation. Ils ne voient pas leurs copains, ils ne vont plus à l'école. On leur a expliqué que ça allait durer encore un petit moment. Voilà, on préfère leur dire un peu plus et leur annoncer une bonne surprise plutôt que... Voilà.
Marion qui prévoit déjà d'organiser la chasse aux œufs de Pâques confinés. Tant mieux, dit-elle, il y aura encore plus de cachettes à la maison que dans le jardin.
Et sur le front de la maladie, selon le dernier bilan d'hier soir, l'épidémie a fait 1995 morts dans les hôpitaux en France, dont près de 300 au cours de ces dernières 24 heures.
Et du côté de la seule agence régionale de santé d'Île-de-France, on n'hésite pas à le dire, je cite... Les chiffres sont vertigineux.
Et dans la région, 1445 lits de réanimation sont occupés sur les 1500 disponibles. En Île-de-France, on touche les limites alors que le pic épidémique n'est toujours pas atteint. La situation se tend et on fait le point avec la chef du service société, Ève Roger.
On va pouvoir tenir ce week-end, promet le patron de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, tenir grâce aux 500 nouveaux lits qui vont encore ouvrir pour les patients qui arriveront samedi et dimanche. 500 lits tous équipés de respirateurs artificiels et de soignants en nombre suffisant. Mais après, pour les suivants, ceux qui se présenteront la semaine prochaine, il va falloir faire de la place, explique le directeur général de crise de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, Bruno Rioux.
Donc l'idée, c'est clairement pour l'Île-de-France, dès que ce sera possible, de pouvoir transférer un certain nombre de malades, libérant ainsi d'autres lits de réanimation pour de nouveaux malades, vers des régions qui sont aujourd'hui peu impactées sur le plan de la réanimation, parce qu'il y a une déprogrammation massive partout, sont sur le pied de guerre, disponibles à pouvoir accueillir ces patients.
Une quinzaine de malades vont donc déjà quitter la région parisienne au cours du week-end, direction le centre Val-de-Loire. Et comme la guerre va être longue, il faut aussi renforcer massivement l'armée des soignants. Ce sont maintenant des étudiants en deuxième et troisième année de médecine qui vont venir prêter main forte, mais aussi des élèves kinés ou même d'écoles d'orthophonie.
Et pendant ce temps-là, la course contre la montre pour trouver, si ce n'est un remède, au moins un médicament qui permette d'endiguer cette pandémie. Et à Marseille, le professeur Didier Raoult persiste et signe.
Il a publié de nouveaux résultats hier soir de l'usage de l'hydroxychloroquine. Didier Raoult qui l'assure, ces nouveaux résultats sembleraient bien démontrer une efficacité de son traitement. Jean-Sébastien Soldaini.
Cette étude semble montrer une chose, la chloroquine associée à une autre molécule permettrait de faire chuter la charge virale des patients, c'est-à-dire de les rendre moins contagieux. Pas forcément de les guérir, mais ce serait un atout pour freiner l'expansion de l'épidémie et diminuer la pression sur les hôpitaux. En revanche, beaucoup de zones d'ombre. L'équipe du professeur Raoult ne semble pas utiliser ce qui s'appelle un groupe contrôle, c'est-à-dire des personnes malades qui ne prennent pas le traitement ou bien à qui les chercheurs administrent un placebo. C'est fondamental dans ce genre d'études statistiques, car ça permet de comparer la réaction des personnes testées par rapport aux autres. En l'occurrence, les résultats obtenus par cette nouvelle étude, 80 personnes dont l'état s'est amélioré, plus une personne décédée, elle avait 86 ans, 80 survivants et un mort, ce n'est pas très éloigné des statistiques connues à ce jour pour la maladie, des statistiques qui ne pourront être confirmées que par l'étude internationale en cours sur un nombre de patients beaucoup plus large.
Et d'ici à ce qu'on trouve un traitement, l'enjeu reste de ne pas transmettre le virus, de respecter les gestes barrières et d'être vigilant, comme par exemple au moment de payer vos courses.
Car les caisses automatiques seraient de véritables nids à virus, c'est ce que dénonce en tout cas le syndicat CFDT Auchan, qui demande carrément la fermeture de toutes ces caisses automatiques. Contrairement aux caisses traditionnelles, elles ne respecteraient absolument pas les consignes de sécurité sanitaire. À ce sujet, écoutez le reportage de Maximilien Carlier.
Masque sur le visage, Patricia observe les clients, la boule au ventre, la peur d'être contaminée car elle se retrouve parfois à quelques centimètres d'eux.
Quand la caisse bug, on se rapproche du client, on lui demande de s'écarter. Alors il y a des clients qui s'écartent, il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire. Les clients touchent en permanence l'écran, alors ils sont désinfectés plusieurs fois par jour, mais ils ne sont absolument pas désinfectés après chaque passage client. Derrière, eh bien, il y a d'autres clients qui arrivent et qui touchent le même écran, c'est pas très sécurisant.
Fermer ces caisses automatiques, que tout le monde tripote, c'est ce que demande Guy Laplatine, délégué CFDT Auchan.
Il n'y a plus de queue pratiquement dans les hypermarchés. Vu qu'on régule le nombre de personnes à une centaine, il y a pratiquement autant d'hôtesses que de clients, j'ai envie de dire. Et il faut absolument protéger les hôtesses. C'est complètement aberrant de continuer à utiliser ces engins.
Et autre aberration, selon ce syndicaliste, ce sont les caisses Scanette, celles où vous scannez vous-même vos articles. Il y a moins d'hôtesses par mesure de précaution, donc moins de contrôle. Et certains clients en profitent.
Et tandis qu'en France, chacun lutte à son échelle et qu'au jour le jour, la solidarité prend forme, il en va autrement pour l'Union européenne. Les États membres se déchirent, notamment sur la politique économique à mener quand la crise sera terminée. Le ton monte comme jamais entre les pays du sud de l'Europe qui réclament plus de solidarité et les pays du nord. Isabelle Horry.
D'habitude, les dirigeants européens se parlent franchement à huis clos. Mais cette fois, c'est devant les micros que le Premier ministre portugais a vidé sa colère. Ce discours est répugnant dans le cadre de l'Union européenne. C'est vraiment le mot répugnant, s'énerve Antonio Costa.
Répugnant.
Il dénonce la mesquinerie récurrente des Pays-Bas. C'est le ministre hollandais des Finances qui est en cause. L'AE refuse d'aider l'Italie ou l'Espagne qui souffrent face au virus. La Commission européenne devrait enquêter pour savoir pourquoi leurs finances ne sont pas en ordre, a cinglé le ministre. De quoi faire voir rouge aussi à la chef de la diplomatie espagnole. Arantxa Gonzalez apostrophe son collègue sur Twitter. « Nous sommes tous dans le même bateau européen. Nous avons heurté un iceberg inattendu, lui lance-t-elle. Pas le moment de discuter pour savoir s'il y a des tickets de première ou de deuxième classe. Des échanges qui reflètent les tensions très vives entre les capitales et pourtant les 27 vont devoir trouver des mécanismes de solidarité. Leur avenir commun est en jeu, a mis en garde le président Macron. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Et en Europe, l'Italie compte ce matin désormais 9134 morts. Aux États-Unis, Donald Trump a signé le plus grand plan de soutien de l'histoire du pays d'un montant de 2200 milliards de dollars. Les États-Unis qui affichent le plus grand nombre de cas confirmés dans le monde avec plus de 100 000 personnes touchées.
Et voici une initiative qui va faire beaucoup de bien maintenant tout de même parce qu'il faut bien voir les choses aussi parfois en souriant. À mi-mai, c'est dans les Bouches-du-Rhône, les pensionnaires d'un EHPAD tournent actuellement des petits films par qu'ils diffusent sur YouTube. C'est une manière d'abord de passer le temps, certes, et aussi de parler du Covid-19 avec un minimum d'humour et de créativité. Voici le reportage de Nathalie Chevance.
Le seigneur des virus, les pensionnaires contre-attaquent. Musique d'ambiance et effets spéciaux. Francine, 83 ans, se met en scène, appuyée fermement sur son déambulateur. Elle se dresse face au Covid-19 avec cette réplique « Vous n'entrerez pas ». Message indispensable, nous dit-elle au téléphone depuis sa chambre.
Je veux montrer que ce microbe est terrible et qu'il fallait à tout prix l'éliminer. J'espère qu'il ne nous aura pas, hein. Il y a déjà tellement de cas dans le monde.
Vous restez combative, Francine ?
Oh oui, alors, pour lutter, hein. Je pense aux autres qui sont seuls, et les personnes âgées surtout. Moi, j'ai la chance d'être en maison de retraite et de ne pas rester seule.
Gardez le moral. Dans un autre petit film, les pensionnaires se mettent en scène avec les soignants pour rappeler les gestes barrières. Communication nécessaire, souligne Marie-Pierre, la cadre de santé.
C'est pour maintenir le lien aussi avec les familles, et eux, pour qu'ils ne trouvent pas le temps trop long. Puis on leur explique la situation, parce qu'il y a des angoisses qui émergent. Ils continuent d'être acteurs de leur vie, hein, avec nous, et c'est vrai que ça leur permet de se sentir encore utiles, même confinés. On s'est dit, jusqu'au bout, on va lutter, il ne passera pas par nous. On fera comme on pourra, mais on combattra jusqu'au bout avec eux.
Et à ce jour, aucune suspicion de coronavirus parmi les 75 pensionnaires de cette maison de retraite.
Merci Nathalie beaucoup en tout Chevance. Cas pour ce reportage de Nathalie Chevance, donc qui est la correspondante d'Europe 1 à Marseille. Prenez soin de vous Nathalie et vous aussi Simon Rubin. Je sais que d'ici 9h vous serez en pleine forme, c'est dans 50 Absolument. Minutes. A tout à l'heure pour votre prochain journal, il est 8h11 exactement, vous écoutez Europe 1.